le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour ce service protestant. Nous recevons aujourd'hui Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie de Strasbourg. Il va nous parler d'amour aujourd'hui, d'amour au pluriel.
Pour toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, chez toi, seul ou en famille, dans ta voiture, dans une chambre d'hôpital ou une cellule de prison, où que tu sois, et où que tu en sois avec le Seigneur, ce temps t'est proposé, ce temps t'est donné, un temps mis à part dans notre vie, un temps avec Dieu, à l'écoute de sa parole, un temps de prière et d'abord un temps de louange. Louange à toi, Dieu éternel. Tu es le pain de notre faim. Tu es la source dans nos déserts. Tu es la lumière dans notre nuit. Tu es le rocher dans nos tempêtes. Tu es le berger qui nous conduit. Tu es l'huile sur nos blessures. Tu es la porte de notre vie. Louange à toi, Dieu d'amour. Mon Dieu, mon Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie, afin qu'elle soit apaisée par toi. C'est vrai, tu n'es pas le seul Dieu dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Et puis, il y en a un immense, et c'est moi-même. Rappelle-moi sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, car Dieu est amour. En Jésus-Christ, tu es aimé de Dieu et tu es pardonné. Que cette ferme assurance t'habite et te fasse vivre. Que son pardon t'arrache à la mort et te donne d'entrer dans la vie éternelle. Amen. Nous lirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, les versets 15 à 19. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te passais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te passera ta ceinture pour te mener où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Chers amis auditeurs, si l'on posait la question entre nous, qu'est-ce que le christianisme ? Qu'est-ce qui est spécifique à la foi chrétienne ? Je ne sais pas ce que vous répondriez, mais pour ma part, je pense que je dirais ceci. La particularité du christianisme, c'est de reconnaître un Dieu qui s'identifie à l'amour. Dieu est amour, dit l'auteur de la première épître de Jean. Dieu est amour, expression puissante et curieuse à la fois. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas seulement un Dieu qui aime, qui est aimant, qui est miséricordieux. Il est amour, il est miséricorde. C'est-à-dire que l'amour n'est pas l'un de ses attributs parmi tant d'autres. Dieu est éternel, Dieu est juste, Dieu est omniscient, Dieu est tout-puissant. Oui, mais il s'identifie à l'amour. Il n'y a pas de différence entre Dieu et l'amour. Chaque fois que Dieu se manifeste, chaque fois qu'il intervient, c'est l'amour qui se manifeste, c'est l'amour qui intervient. Mais attention, si la Bible nous dit que Dieu est amour, elle ne nous dit pas que l'amour est Dieu. Elle ne nous demande pas de diviniser l'amour, de l'idolâtrer, et elle ne nous dit pas que chaque fois qu'il y a de l'amour, c'est Dieu qui est là. Car cela dépend de quel amour il est question. Quand la première épître de Jean nous dit que Dieu est amour, elle nous parle d'un certain amour. C'est là que les choses se compliquent un peu. C'est ce que montre un épisode de l'Évangile sur lequel nous allons nous arrêter un peu. Celui que nous avons lu tout à l'heure à la toute fin de l'Évangile de Jean. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Tu sais que je t'aime. Prends soin de mes agneaux. Voilà, chers amis, un dialogue bien connu entre Jésus et son disciple Simon-Pierre. Mais un dialogue qui a besoin d'être replacé dans son contexte pour devenir cohérent et intelligible. Jésus est ressuscité, mais il n'est pas encore monté au ciel auprès de son Père. Nous sommes donc, comme aujourd'hui, entre Pâques et l'Ascension. Et Jésus confie à Pierre un ministère, celui de prendre soin de ses brebis, de ses agneaux, après son départ. Et la condition d'un tel ministère, c'est que le disciple aime son maître. Car s'il l'aime, il pourra le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour lui. Mais là où le dialogue s'obscurcit, c'est lorsqu'il se répète. Jésus pose trois fois de suite la même question à son disciple, au point, nous dit le texte, d'attrister Pierre. Pourquoi donc Jésus demande-t-il trois fois de suite à Pierre « M'aimes-tu ? » Est-ce que la Bible bégaye comme un disque rayé ? Est-ce que Jésus manque de confiance envers son disciple ? Et par conséquent a besoin de s'assurer de sa réponse. Il faut dire que Jésus aurait de quoi douter des affirmations de Pierre. Pierre qui, après avoir déclaré à son maître « Je donnerai ma vie pour toi », n'a pas hésité à le renier. Trois fois, avant le chant du coq. Alors justement, la triple question de Jésus ne correspondrait-elle pas au triple reniement de Pierre ? Jésus aurait-il voulu ainsi rappeler à Pierre qu'il n'est pas un homme de parole ? Cette interprétation classique n'est, à mon sens, guère convaincante, ou en tout cas n'est pas suffisante, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, elle donne de Jésus l'image d'un revanchard. Puisque Pierre l'a renié trois fois, eh bien, il se venge en lui posant trois fois la même question. Et pour ma part, ce n'est pas tout à fait l'image que j'ai de Jésus, un revanchard. Mais surtout, cette lecture n'est pas convaincante, car en réalité, à y regarder de plus près, les trois questions de Jésus à Pierre ne sont pas exactement les mêmes. C'est pourquoi je vous propose ce matin une autre piste pour éclairer cet étrange dialogue. Une autre piste qui consiste à explorer ce que c'est que aimer. Qu'est-ce que aimer ? Qu'est-ce donc qu'aimer ? En français, nous employons le même verbe aimer pour désigner des choses diverses et variées. Nous employons le verbe aimer pour dire « j'aime le bon vin » ou « j'aime le chocolat ». Nous employons le même verbe aimer pour dire « j'aime ma femme » ou « mon mari » ou « mon fiancé ». Et nous employons le même verbe aimer pour dire « j'aime mon Dieu et j'aime mon prochain ». Il est clair qu'il ne s'agit pas là du même amour. J'ai assisté une fois, dans une église, à un spectacle organisé par les jeunes de la paroisse sur le thème de l'amour. C'était très bien joué, mais tout était mélangé. Tout était mis sur le même plan. Nous passions, sans nous en rendre compte, d'une forme de l'amour à une autre. Aimer la bière, aimer une fille, aimer son prochain. Paradoxalement, la langue française est très pauvre pour parler d'amour. Eh bien, voyez-vous, chers amis, en hébreu comme en grec, les deux langues dans lesquelles la Bible a été premièrement écrite, l'Ancien Testament en hébreu, le Nouveau Testament en grec, dans chacune de ces deux langues, il y a trois verbes aimer et trois verbes bien différents l'un de l'autre. Un premier verbe « aimer » qui désigne l'amour entre un homme et une femme, l'amour charnel, l'amour conjugal. C'est le verbe grec « héros » qui a donné en français « érotisme ». Et contrairement à une idée reçue, il n'y a aucun tabou à ce sujet dans la Bible, ni aucun jugement négatif, sauf sur les perversions de l'amour charnel, mais non sur l'amour en lui-même. Il suffit de lire le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques est un véritable hymne à l'amour charnel, à l'amour passion, à l'amour quasi fusionnel. Un second verbe aimer désigne l'amour affectif, sentimental, l'attirance qui rapproche des amis. C'est le verbe grec philo qui a donné philanthrope, francophile. Il s'agit là plus d'amitié que d'amour, mais nous employons en français le verbe aimer aussi pour ce type de relation, de sympathie, d'attraction réciproque pour cause d'affinité. Je suis anglophile si j'aime l'Angleterre et les Anglais, ou anglophobe si je ne les aime pas, etc. J'aime mes amis, par contre, je n'aime pas ma voisine, c'est-à-dire je n'ai aucune affinité avec elle, et je choisis de l'éviter. J'espère que ma voisine n'écoute pas la radio en ce moment. Dans le Nouveau Testament, il y a des relations d'amitié de ce type, celles qui relient Jésus et Lazare, par exemple. Et le troisième verbe, aimer, désigne l'amour du prochain, l'amour qui vient de Dieu, l'amour dont Dieu nous aime et qui doit guider la vie du chrétien dans ses relations avec les autres. C'est le verbe grec agapo qui a donné en français agape, ces repas fraternels des premières communautés chrétiennes. Ce troisième amour est bien différent des deux autres, en ceci qu'il est un amour sans prédilection, sans préférence, sans choix. Aimer son prochain, ce n'est pas le choisir, comme on choisit un ami, selon ses affinités, et à plus forte raison, comme on choisit son conjoint, par passion amoureuse, après un coup de foudre. Mais aimer son prochain, c'est aimer le premier qui se présente, le premier venu, qui qu'il soit. Le philosophe Kierkegaard disait « Tu peux faire le tour de la terre à la recherche d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée et ne pas en trouver. Tu peux faire le tour de la terre à la recherche d'un ami et ne pas en trouver. Par contre, il te suffit d'ouvrir ta porte, de sortir dans la rue et le premier qui se trouve là, c'est ton prochain et tu dois l'aimer. Et même s'il disparaît, tu rencontreras immédiatement un autre prochain que tu dois aimer. » Aimer son prochain, c'est donc aimer sans prédilection, sans choix, mais non pas sans affect, non pas sans sentiment. Souvent, l'Évangile nous dit que Jésus rencontre une personne souffrante, qu'il est ému de compassion, la traduction littérale dit qu'il est remué dans ses entrailles, puis qu'il l'aime. Aimer son prochain, c'est donc accueillir le premier venu tel qu'il est et partager avec lui, chercher à répondre à ses besoins. Ce n'est pas chercher un intérêt, une gratification dans cette relation d'amour. Ce n'est même pas attendre une réciprocité, un amour en retour. Ce n'est pas chercher à être aimé. C'est aimer sans condition. Aimer son prochain n'est pas naturel, ne va pas dans le sens de notre propre nature, de nos désirs, de nos envies. Cela n'est ni facile, car sinon ce ne serait pas un commandement, ni impossible, car sinon ce ne serait pas non plus un commandement. Car Jésus ne nous commanderait pas quelque chose d'impossible. Il ne mettrait pas un tel joug sur nos épaules. Cela n'est donc possible que parce que nous sommes ainsi aimés de Dieu, sans condition, malgré nos défauts, malgré nos fautes, malgré peut-être notre aspect repoussant, notre aspect peu aimable. Comme le dit Jean dans son épître, nous ne pouvons aimer notre prochain que parce que Dieu nous aime et nous a aimés le premier, car Dieu est amour. Et il s'agit bien de cet amour-là. Dieu est agapé. Et c'est d'ailleurs cet amour-là que célèbre l'hymne à l'amour de Paul dans sa première épître aux Corinthiens. C'est un texte que nous lisons souvent lors des mariages, alors qu'il ne concerne pas l'amour conjugal, mais l'amour du prochain. Cependant, cet amour a tout à fait sa place dans les célébrations de mariage, car cette forme de l'amour a tout à fait sa place dans le couple. En effet, mon conjoint, comme mon ami du reste, est aussi mon prochain, puisqu'il se trouve là, et je dois l'aimer ainsi. Encore une fois, les deux autres formes de l'amour, l'amour conjugal et l'amour affectif, ne sont pas à dénigrer. Elles sont même très importantes, très belles, très savoureuses, dans un couple, dans les relations d'amitié, et la Bible en parle. Mais n'oublions pas la troisième forme, celle qui évite le repli sur soi, sur son couple et sur son cercle d'amis, celle du commandement d'amour, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, après ce petit détour linguistique, revenons maintenant à notre texte de l'Évangile. Jésus demande à Pierre « M'aimes-tu ?» Il emploie là le troisième verbe « aimer », celui qui désigne l'amour chrétien, l'amour qui vient de Dieu et dont nous devons aimer notre prochain. Mais Pierre répond « Tu sais que je t'aime » avec le second verbe « aimer », celui qui désigne l'amour humain, l'amour affectif, sentimental, l'amitié. Car Pierre en reste à ce niveau-là dans sa relation avec Jésus. Pour lui, Jésus, c'est un ami, c'est presque un copain. Ce n'est pas la première fois que l'Évangile relate un malentendu entre Jésus et ses disciples. Ses disciples qui sont bien souvent, comme on dit familièrement, à côté de la plaque. Alors Jésus insiste. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» en employant de nouveau le troisième verbe « aimer ». Et Pierre répond « Tu sais que je t'aime » en restant toujours au niveau humain et affectif. Alors, à sa troisième question, Jésus change de verbe. Il emploie le même verbe que Pierre, celui de l'amour humain affectif, de l'amitié. Car en voyant que Pierre ne comprend pas de quel amour il veut parler, Jésus se met à sa portée. Il s'abaisse au niveau de son humanité. Et Pierre répond une troisième fois à ce niveau de l'amour affectif, de l'amitié. Presque toutes les versions de la Bible, presque toutes, entretiennent l'ambiguïté et le quiproquo en employant six fois le simple verbe « aimer », ce qui occulte totalement le jeu subtil entre Jésus et Pierre. Ce ne sont pas seulement les disciples qui sont à côté de la plaque, mais parfois aussi, hélas, les traducteurs de la Bible. En réalité, pour rester fidèle au texte grec et à ses nuances, il faudrait traduire de la manière suivante. Jésus dit à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu sans condition ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu sans condition ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit enfin, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi ? Es-tu mon ami ?» Pierre lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, que je suis ton ami. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Ainsi, Jésus est prêt à s'abaisser vers nous, à employer notre langage pour essayer de se faire comprendre. Et ce faisant, il met tout simplement en pratique l'amour qu'il veut nous enseigner. Car c'est cela qui est extraordinaire dans ce texte. Jésus veut nous enseigner à aimer inconditionnellement, mais il nous aime tant, il tient tant à nous rejoindre, qu'il finit par admettre nos petites amours conditionnelles, nos petites amitiés par affinité. Il nous aime tant que pour nous montrer comment aimer sans condition, il met cet amour en pratique en acceptant que nous aimions avec des conditions. Et en même temps, il fait de l'amour sans condition un commandement. Chaque jour, Jésus nous demande « M'aimes-tu ?» Chaque jour, à travers notre prochain, c'est Jésus qui demande « M'aimes-tu ?» Sachons entendre cette question de Jésus pour ce qu'elle est. Une invitation à aimer, mais pas de n'importe quel amour. Une invitation à aimer de l'amour qui vient de Dieu, de l'amour dont Dieu en Jésus-Christ nous a aimé le premier. Une invitation à aimer, de l'amour dont Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Amen. Nous nous unissons à présent dans la prière d'intercession. Nous prions les uns pour les autres. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Ta bonté est si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, notre Sauveur. Tu nous connais tous et tu nous aimes tous, chacune et chacun en particulier. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi tous nos soucis, afin que tu t'en préoccupes. Notre inquiétude, afin que tu l'apaises. Nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos pensées et nos désirs, afin que tu les purifies. Toute notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Seigneur, sois avec tous les nôtres, et nous pouvons, dans le silence, dans le secret de notre cœur, te confier ceux que nous aimons, ceux qui nous sont chers. Sois avec les pauvres, les opprimés et les affligés, les malades, tous ceux qui vivent difficilement un deuil. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et de ceux qui, dans notre cité, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit et de la paix. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. » Et nous terminons notre méditation de ce matin en recevant la bénédiction qui vient de notre Père Céleste. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois, où que tu en sois avec le Seigneur, reçois la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera ton cœur et tes pensées. En Jésus-Christ. Amen.
Ainsi s'achève ce service protestant. Nous avons entendu aujourd'hui Frédéric Rognon, professeur de philosophie à la faculté de théologie de Strasbourg. Merci à Dany Journeau et à Emmanuel Couturier pour la réalisation et la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez retrouver le texte de cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Si vous désirez le recevoir par courrier, écrivez au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture, à découvrir tout de suite le journal et puis Talmudique avec Marc-Alain Wacknin. Et puis je vous retrouve jeudi à 9h30 pour les émissions spéciales du jeudi de l'Ascension. Bonne semaine.